Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Rosalie Lafarge.
2020 a été décrétée année nationale de la bande dessinée par le ministre de la Culture et le CNL, le Centre National du Livre, vient d'ouvrir un concours de jeunes talents pour la création de l'affiche de l'événement.
Oui, alors on leur conseillera de ne pas s'inspirer des vignettes de Tintin. Après tant d'autres, le dessinateur Emmanuel Lepage vient de faire les frais de l'obsession procédurière des ayants droit d'Hergé pour une affiche destinée au 30e anniversaire du Centre Belge de la bande dessinée de Bruxelles, où la fusée d'Objectif Lune figurait à côté de l'espadon d'Edgar P. Jacobs ou du ptérodactyle de Tardy. Tintin marche sur la lune et Moulinsart sur la tête. Le site de l'hebdomadaire Le Point. Bernard Quirini s'insurge contre un zèle qui frise l'acharnement contre-productif. Personne ne conteste qu'il faille protéger l'image du reporter contre les utilisations abusives, mais de là à interdire à quiconque de reproduire sans autorisation le plus petit bout de case, à s'acharner avec une sorte de jouissance sadique contre les humbles tintinophiles qui cherchent avec leurs petits moyens à communiquer leur passion pour l'œuvre d'Hergé il y a un pas. Le résultat, c'est que le monde de Tintin, qui devrait être synonyme d'aventure, d'évasion, d'émerveillement et de souvenirs d'enfance, est aujourd'hui synonyme surtout d'avocat, de propriété intellectuelle, de courrier menaçant, de merchandising et d'assignation au tribunal. Vous ne verrez pas la moindre vignette ou allusion graphique, même en couverture, dans la dernière livraison de la revue Europe, consacrée à Tintin sous le regard des écrivains. Il est vrai que nous sommes là dans l'univers intérieur de l'anamnèse et, comme chez Jean-Christophe Bailly, elle renvoie à l'expérience initiatique de la première lecture. L'aspect iconique de la ville comme décor interchangeable, par exemple, qui contraste avec les vues de Londres ou Paris caractéristiques dans les albums de Blake et Mortimer, réveille sans bruit quelque chose du train des jours et des nuits de l'enfance. De la lecture sans fin, recommencée, des albums, l'écrivain retient la formidable impulsion voyageuse, mais dans des lieux hors lieu, des lieux refrains, où l'on revient toujours, mais qui semblent faits pour être quittés. Tintin, contrairement au capitaine Haddock, cédant toujours avec entrain à la tentation de l'aventure qui s'y entr'ouvre. Autre signe fort, toute l'action se déploie au sein d'un monde privé d'ombre. C'est particulièrement frappant dans les cases nocturnes du début de l'Étoile mystérieuse. Sans ombre, les vivants semblent ne pas appartenir au monde vrai. C'est le résultat de la fameuse ligne claire. Le réalisme de Tintin, s'il existe, est toujours contrôlé par la déréalisation que libère le règne absolu du contour. Pour Alain Borer, c'est le son qui est la dimension principale de l'univers de Tintin. Il relève quelle est la structure principale de la narration. Il suffit de se reporter à la fin de chaque page droite où le plus souvent une explosion, un cri déchirant, un son inattendu nous font tourner la page avec avidité. Une typographie exclamative omniprésente soutient le récit avec ses inflexions notables, Haddock et ses jurons, voire ses onomatopées colériques et dissonants de Tintin qui n'a jamais dit un mot de travers et qui ne pipe mot pendant ses salves. De la surdité de Tournesol aux vocalises stridentes de la Castafiore, ce sont encore deux polarités acoustiques qui cadencent la fiction. L'image revient à foison dans le troisième numéro du MOOC coédité par le magazine Géo et les éditions Moulinsart. Tintin, c'est l'aventure, c'est son titre. Au sommaire, les îles, terre d'imaginaire, la recherche du Yéti dans les contreforts de l'Himalaya et sans doute la dernière interview de Michel Serre, tintinologue de la première heure, lui aussi évoque des souvenirs d'enfance et selon lui, si Jules Verne a vulgarisé les découvertes scientifiques de son époque pour nous faire rêver, Hergé permet de comprendre le cheminement des sciences humaines au XXe siècle et résoudre leur plus grand mystère, la découverte de l'autre. Schnock, la revue des vieux de 27 à 87 ans, rend hommage à Astérix le Gaulois en publiant notamment le grand entretien de Numa Sadoul avec René Goscinny d'août 1973 pour les cahiers de la bande dessinée. Il y revient sur l'invention du personnage. Les Gaulois étant moins nombreux et moins forts, on leur donnera un druide qui fabrique une potion magique. Il y raconte la genèse du fanzine pilote avec tous les grands de la BD française qui finiront par rejoindre Charlie après l'interdiction de Harakiri, GB, Gottlieb, Cabu, Reiser. Le ton était lancé à la fois d'expérimentation et de satire. Et à propos de la potion magique, il s'amuse du rapprochement esquissé par un journaliste de l'Express avec la personnalité charismatique du général de Gaulle. Gaulle, lequel, selon Malraux, dans Les chaînes qu'on abat, prétendait que son seul rival international était Tintin. Je cite « Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands, on s'en aperçoit pas à cause de ma taille ».